Troisième congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien
bonsoir.
Sûr au Canu, 102.2 MHz, ça fait rebelle des radios.
On t'entend super mal en fait.
Et...
on dirait que ton micro est pas monté et que tu parles dans l'écho.
Pourtant,
là c'est mieux.
Il est là. On va regarder, on va faire attention. Normalement, voilà.
Bon.
Qu'est-ce que je voulais dire donc, 9 mars aujourd'hui, donc, on va vous parler de chanvre, on va vous raconter un petit peu de ce qui se passe dans le monde entier.
On t'entend mal, Jacques.
Règle ton casque, peut-être, plutôt. Parce que moi, je m'entends impeccable dans les miens.
D'accord. Moi, je m'entends bien dans... Je t'entends bien, maintenant.
T'es un petit peu fort, par contre. Ah. Voilà, bon. Je vais y arriver.
Moi, pour moi, c'est bon.
Impeccable, alors. Donc revue de presse, on va faire le tour du monde un petit peu, on va aller faire un petit coup, on ira en Espagne, on ira voir ce que raconte l'ONU, on ira voir la Suisse aussi, où là c'est plutôt un anti dans l'association romande contre la drogue évidemment. On ira voir en Angleterre où là-bas c'est les journalistes qui se lâchent et qui fument en direct ou presque. Après c'est l'OMS à qui on oblige de ou à qui on veut faire prendre position de force.
Bon, on sait pas, on verra.
Bon, on les incite à intégrer le sujet, hein. En tout cas. Et enfin l'Uruguay encore, le Mexique où là-bas les mafias sont obligées de changer un petit peu leur fusil d'épaule à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, on fera un petit peu de le tour du monde avec bien sûr le dernier rapport de l'ONU avec tout ce qui se passe en Afrique où là-bas aussi on a eu un article d'une page là-dessus. Un truc assez intéressant. Et puis selon comment ça se passe, si on va très vite ou pas, et on reviendra sur l'article du Pays-Bas, où on vous décrira peut-être le système néerlandais, si on a le temps. Et jusqu'à maintenant, ça fait un mois qu'on n'a pas le temps. Mais qui sait, on va peut-être y arriver. Voilà un petit peu pour l'introduction d'un petit peu tout ce qu'on va dire ce soir. Qu'est-ce que je voulais dire ? 2 mai ?
Oui.
Faut pas oublier.
2 mai, le 2 mai... nous vous attendons nombreuses et nombreux Place Carnot à partir de 15h pour le début, pour la marche mondiale du cannabis 2015. Voilà, donc ça sera à partir de 15h Place Carnot comme tous les ans. Voilà. Je sais pas si... Pour l'instant, on en dira sans doute un peu plus dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Bon, ça va être vite là, hein, le 2 mai... c'est dans 2 mois.
Voilà.
Tout simplement.
Voilà. Sinon, une petite question pour le salon.
Alors oui, avant le 2 mai, il y a toujours Technigro, Technibrou. Les 28 et 29 mars, au double mixte, l'espace double mixte à Villeurbanne, sur le campus de la Doua. On vous fait gagner des places toutes les semaines pour le salon. Alors, Technigro, c'est le salon des plantes et des nouvelles techniques de culture. Et Technibrou, ce sera au même endroit, c'est le salon des artisans brasseurs et des techniques de brassage. Voilà. Donc, on va reposer la même question qu'on a posée la semaine dernière, vu que très peu de monde a trouvé la réponse, on va dire ça. Donc, la question, c'était celle-ci. Quel est le prochain État des États-Unis qui, le 1er juillet 2015... mettra en œuvre pratique, de manière concrète et pratique, la légalisation du cannabis donc aux États-Unis. Donc voilà, le prochain état, le 1er juillet 2015.
Vous pouvez répondre pendant les pauses musicales à la radio.
Quand on parle pas, donc au 06. Pardon.
04 78 39 18 15.
Tout à fait, c'est ça. 04 78 39 18 15. Eh ben, on va dire que.
On va dire qu'on va mettre la musique.
C'est parti.
Et puis qu'on va arriver. Et retour au direct. Ah, j'ai l'impression que le son va un peu mieux. Excusez-nous pour ces problèmes de son au début de l'émission. Mais voilà.
Voilà, donc on sait bien, les gars, ça s'écoutait Much More Oneyed Jack.
Voilà, là c'est bien.
Là c'est bon, là, les sons.
Oneyed Jack, yeah.
One-Eyed Jack. Voilà.
Et bien, revenons-en à notre revue de presse, donc, du coup.
Alors, oui, juste avant de repartir. pour la question, pour gagner une place, on amènera la place. Oui, on a un auditeur qui nous a appelé. C'est vrai que j'ai pas dit qu'il fallait répondre à la question par mail sur l'adresse, la boîte du Cirque Lyon. Mais bon, c'est pas grave. La place est gagnée.
On fera gagner une autre place si quelqu'un y répond par mail. Donc rappelle l'adresse mail du Cirque Lyon à laquelle on peut répondre à la question.
cirque-lyon@no-log.org. Tous les tirets sont les tirets du milieu. Donc cirque-lyon@no-log.org. C'est là-bas qu'il faut répondre à la question pour gagner une place pour Technigro, Technibrou, hormis l'auditeur qui vient de nous appeler il y a une minute et que nous félicitons d'avoir gagné une place. Voilà.
Voilà, c'est une place pour le week-end.
Voilà, donc pour les deux jours en fait.
Pour les deux jours.
Bon, alors, retour à l'actu, et avec, on va commencer peut-être un peu là-dessus, sur le nouveau rapport annuel de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, qui est, comme son nom l'indique, l'organisation, on va dire, qui s'intéresse, s'occupe de chiffrer, j'allais dire contrôler, mais non, ils contrôlent rien du tout.
De chiffrer,
fait,
hein. de voir des statistiques, d'avoir des tendances, de voir comment ça se passe, les trafics de par le monde, où sont les mafias, où sont les grands passages, d'évaluer les masses d'argent. C'est un travail terrible, quoi. En général, leurs rapports sont toujours sur des données qui datent d'un an ou deux, le temps de pouvoir les rassembler et ensuite les traiter. À peu près les égaliser, quoi, les homogénéiser, parce que d'un pays et l'autre, évidemment, les données ne sont pas récoltées de la même façon, quoi. On peut dire aussi que c'est de l'à peu près, mais bon.
Oui, il y a jusqu'à une dizaine d'années, cet organe était très légitime et était très écouté. Puis là, quand même, ces dernières années, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été mises à l'encontre de l'organe. Où en gros ils essaient de rendre un peu compte d'une réalité un peu dans le sens qu'ils veulent, quoi. C'est quand même un peu ça. Alors bon.
Ce qui est marrant, c'est que le titre il dit que l'ONU déplore la légalisation progressive du cannabis et s'inquiète des nouvelles drogues. Alors des nouvelles drogues, ça, quasiment les deux tiers de l'article y sont consacrés. Il y a seulement deux lignes sur la légalisation progressive du cannabis. Hein. Après, bon, il y a plein de petites brèves et ça passe dedans. Donc, mais par contre, a priori, et ce qu'on retrouve, puisqu'on va y revenir sur l'article sur l'Afrique, l'OICS parle beaucoup des nouvelles drogues. Alors bon, c'est toujours des amphétamines, hein, plus ou moins, mais elles sont juste un petit peu transformées, ce qui permet d'avoir un nouveau nom, d'essayer de leur donner de nouvelles applications et d'essayer de les produire et de les vendre et de les avoir, de quoi qu'elles soient légales pendant un moment.
Bah oui, parce que tant que les législations soient actualisées par les gouvernements, les ministères et tout, il y a toujours une petite fenêtre légale en fait.
Voilà, ou un petit vide juridique plutôt. On peut dire entre l'apparition d'une substance et son interdiction.
Oui.
Voilà. En tout cas, bon, il y a beaucoup aux États-Unis. C'est pas les derniers là-dessus, hein. Même si on reviendra sur d'autres endroits, comme en Chine aussi, quoi. Dans tous les pays du monde, on voit ces produits de synthèse qui arrivent de
petits labos
sur les marchés. Quoi.
Labos,
voilà, les petits labos. Il y a plein de séries, il me semble, qu'on a vu des séries américaines.
Ouais.
Il y a eu Weeds sur le cannabis et je crois qu'il y en avait une avec un prof qui s'est mis à vendre des amphétamines justement. Je ne saurais pas dire le nom de la
mais
série.
Mais c'est quoi le rapport avec pour des nouveaux produits de synthèse?
Non, mais c'est-à-dire que c'est dans l'air du temps, y compris les auteurs de séries s'en inspirent et en font.
D'accord.
En font des. Pas des.
Des, sitcoms,
des héros,
voilà.
Quelque part des héros. Hein. Voilà, dans ce qu'on apprend, bon, voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur ces produits de synthèse, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, je sais pas.
Ils en ont détecté 11% de plus que l'année précédente et deux fois plus qu'en 2009.
Voilà, donc une tendance à la hausse. Hein.
Voilà. Bon. Alors moi, ce qui m'intéressait dans cet article, c'était plus la fin, en fait. Moins de cocaïne sur le marché.
Voilà, tout à fait, j'y arrive. Je t'en prie.
D'accord. Voilà, bon, donc moins de cocaïne sur le marché mondial, point d'interrogation. Je pense que c'est ça qui va.
C'est ce qu'ils disent, hein.
Voilà, bon.
Puisqu'ils parlent de.
Ils parlent d'abord de la, de comment dire, de l'offre de cocaïne plutôt en Amérique du Sud, et un effet perceptible sur les principaux marchés de consommation. Voilà. Donc ils disent que en Amérique du Nord, il y a, et dans une moindre mesure en Europe, voilà, l'offre de 2014, d'après eux, est restée très en dessous des niveaux records atteints autour de 2006. Pourquoi ? Eh bien, apparemment, une diminution d'un tiers environ des superficies consacrées à la culture du cocaïer en Colombie, en Bolivie, au Pérou, qui sont ou étaient les trois principaux producteurs mondiaux entre 2007 et 2013. Voilà, aux États-Unis, environ 1,8% de la population consommerait actuellement de la cocaïne contre 2,5% en 2006. Les prix ont également augmenté de moitié en 6 ans, ce qui est quand même beaucoup. Et l'OICS salue en particulier la Bolivie, où la culture du cocaïne est tombée à son niveau le plus bas depuis 2002. Ils ont démantelé beaucoup de laboratoires clandestins, 67. Près de 6000 sites de production de cocaïne base ont été fermés. Alors après, effectivement, l'organe déplore les légalisations du cannabis en Uruguay et dans certains états des États-Unis. Pourquoi ? Ben, il juge ça contraire au droit international. Alors... Là, dans cet article, qui est un article de Libération, l'organe ne dit rien de plus. Hein.
Non.
Ce qui est un peu lamentable, mais bon, on connaît un peu l'OICS. Alors, l'OICS est inquiète, d'autant plus inquiète que, d'après eux, alors ça me fait rigoler, pourquoi ils sont inquiets ? Parce que, encore une fois, on va ressortir l'histoire du cannabis beaucoup plus dosé qu'avant. Alors là, la teneur moyenne en THC aurait augmenté de 37% en moyenne dans les drogues saisies aux États-Unis entre 2007 et 2012. Visiblement, avant, les agents de la DEA saisissaient visiblement du foin. Hein. Là, maintenant, ils saisissent autre chose. Bon. Et la hausse atteindrait même 75% pour le chanvre importé. D'où, on ne sait pas.
Bah, là, de toute manière, bah, d'où c'est bah, du Mexique ou d'Europe, ouais, hein, ou du Canada.
Il faut savoir que, quand même, que les États-Unis sont autosuffisants en cannabis, hein, depuis très longtemps.
Tout à fait. Et ils en exportent, et ils en importent. Bon, voilà. C'est pas, il y a des produits différents. C'est les premiers en marée. Voilà. Il y a aucun doute là-dessus.
Alors, par contre,
néanmoins, quand on réfléchit, 37% en plus, on va réfléchir un tout petit peu en chiffres, hein, ça fait 40% quasiment. Ça fait que, mettons que la teneur moyenne de ce qu'ils attrapaient était autour de 7-8%, de prendre 40%, hein, elle serait maintenant une teneur moyenne autour de 10-11%. Et à la limite, ça voudrait dire qu'il y a de plus en plus d'herbes à 20% qui ont été attrapées, même si leur pourcentage n'est pas aussi excessif qu'on veut bien le faire croire. Mais voilà, voilà, pour donner des teneurs en chiffres, quoi, c'est...
Ouais, alors je sais... Ouais, mais enfin bon...
Moi, justement, pour moi, ça, c'est des faits, justement, par rapport à ce que tu dis, que l'herbe est toujours identique, qu'elle n'a pas varié depuis la nuit des temps. Je sais bien qu'on a une petite nuance sur ce débat-là.
Il y a des herbes, selon les latitudes, dont on sait qu'elles sont très fortes. Et on n'a pas attendu. Par contre, moi, là où je suis d'accord avec toi, on en avait déjà parlé, c'est qu'il y a une démocratisation de ces herbes un peu plus costauds, quoi. Voilà, ça, d'accord. Mais de là à dire qu'avant, elles étaient très peu fortes et que maintenant, elles sont très fortes, voilà, non, je suis pas d'accord non plus. En d'autre part, je pense que ça fait très longtemps que la DEA intercepte des quantités de cannabis. Et ça me paraît vraiment hallucinant que juste sur ces dernières années, en 5 ans entre 2007 et 2012, ils aient constaté une augmentation du taux de THC dans le chanvre. Ça me paraît hallucinant, alors que les Américains et la Californie depuis très longtemps cultivent des variétés d'herbes qui sont très bonnes. Parce que Jack Herer, c'est un Américain, et la variété Jack Herer qui a été qui est plus là, ou moins sous licence NCCID, c'est pas une herbe pas forte.
Oui, mais celle-là, elle existait déjà avant 2007. Hein, la Jack Herer, on en parle.
C'est bien ce que je suis en train de te dire.
Je suis d'accord avec toi. Là, il parle de 5 ans justement. C'est pour ça que j'essaye de trouver des chiffres moyens qui peuvent être raisonnables dans ce que je te dis, parce que. Ils partent de nulle part, hein. Je dis 8% et après 11%, j'aurais pu dire 4 et 6 ou 7. Et ou au contraire partir de 10 et monter à 14 ou 15.
Oui, mais moi c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que avant 2007, ils saisissaient déjà des produits.
Oui, et il y en avait déjà des très forts.
Bah, je vois pas pourquoi ils seraient plus forts entre 2007 et 2012. Et qu'entre 2001 et 2007.
Eh ben, si dans tout ce qui saisissait, il y avait justement une grande partie de foin et quelques herbes exceptionnelles, et si maintenant dans ce qui saisissent, il y a beaucoup d'herbes exceptionnelles, voire des herbes extrêmement.
Pourquoi est-ce qu'avant il y avait du foin et que maintenant il y en aurait plus ?
Si, il y en a toujours du foin. Sauf qu'il y en a de moins en moins parce que les gens n'en veulent pas.
Voilà, tout ça pour dire que moi,
si on a mangé du foin et de l'avoine, tu vas aller prendre de l'avoine.
Tout ça pour dire que ces chiffres qui nous balancent, moi j'y crois pas du tout.
C'est pour faire peur aux gens. Moi j'essaie de prendre la parole. Pour dire simplement que c'est des chiffres. Déjà, vous le dites, quoi, ils sont incompréhensibles, ces chiffres, quoi. 37% de plus, 75% de plus, de quoi ? Ça parle pas du tout, quoi. Moi, c'est juste pour faire peur aux gens, parce que les gens, ils voient des gros chiffres comme ça. Ouh là là, 37% plus.
C'est vachement plus fort.
Ouais. Alors que effectivement, en plus, ils se basent sur quoi ? Ils parlent dans le monde, c'est ça ?
Là, on est saisi.
Oui, dans le monde, aux États-Unis en particulier.
Là, c'est aux États-Unis, là.
C'est aux États-Unis.
Mmh. Bon, pour aller dans le sens de dire que c'est mal d'avoir légalisé au Colorado, machin, tout ça.
Bon, on discute pour rien, quoi. Hein. On voit bien que de toute façon, c'est de la com pour expliquer qu'il faut pas légaliser, quoi.
Oui.
Donc là, on est en train de discuter un peu pour pas grand-chose.
Non, ils disent pas. Attends, c'est beaucoup plus complexe, hein, parce que là-dedans, il y en a quand même. C'est qui dit ça il craint une augmentation de ces cultures dans le départ.
Elle est très courte la phrase. Hein.
J'essaie de retrouver à qui je rattache le « il » qui dit quelque chose d'intelligent.
Bah, le problème, c'est que peut-être que c'est plus développé dans le rapport. Là, bon, c'est un article de Libération qui reprend ce bout-là. Bon, voilà, là, comme ça dit rien. Et, mais je suis même pas sûr que dans le rapport de l'EICS, ça en dise beaucoup plus non plus. Hein. On a l'habitude. Bon, on va pas non plus y passer toute l'émission.
Non, parce que c'est intéressant. Cette histoire de dose de cannabis plus fort et tout, ça fait pas mal de temps qu'on l'entend de la part de des prohibitionnistes, des politiques. Donc, on voit bien que ça. Nous, on pense que ça tient pas la route. Après, Jacques, t'es pas vraiment d'accord. Parce que peut-être que tu vois des autoproducteurs qui produisent du plus costaud, mais ça reste infime, quoi, sur le marché mondial, ce genre de choses, quoi. Ce qui prime toujours, c'est le Marocos, quoi, en Europe. De toute façon, c'est la consommation.
Je pense pas que ce soit infime, justement. Moi, ce que j'essaie de dire là, en fait, c'est que ça fait très longtemps qu'aux États-Unis, ils cultivent du cannabis, du très bon. En plus, ils sont autosuffisants. Le cannabis de très bonne qualité cultive aujourd'hui, le cultivait déjà il y a 5 ans, déjà il y a 10 ans, déjà il y a 15 ans, déjà il y a 20 ans. Et moi, je m'étonne de voir que ce serait qu'aujourd'hui qu'on constate une augmentation, par exemple, des taux de THC. C'est justement un peu j'ai envie de dire la spécificité des chanvres à vocation plutôt récréative. C'est que justement, ils sont bien cultivés, ils sont bien construits. Ces plantes sont bien fichues et elles ont tout ce qu'il faut, toutes les substances, chimiques, psychoactives dedans. Et que moi, ça m'étonne de voir qu'il n'y aurait que maintenant qu'ils saisiraient des produits finalement de bonne qualité. Après, c'est intéressant ce que tu dis, ton calcul sur le pourcentage. Mais là encore, je trouve ça surprenant que, avant 2007, et visiblement, il saisissait plutôt des produits pas très forts, et que depuis 2007, ils en saisissent plus des produits plus forts. Voilà. Je sais pas. Moi, je comprends pas bien toute cette logique.
Je pense
qu'il y en a. Hormis le fait de faire peur en annonçant ces chiffres.
Où je te rejoins, c'est que je nie pas qu'ils existaient déjà, mais par contre, je pense qu'il y en a de plus en plus. Et maintenant, justement, dans les, il y a quelques cas rares qui dépassent des sommets qu'on atteignait difficilement avant. Surtout avec des cultures d'intérieur, le perfectionnement des machines, etc., des systèmes de, d'irrigation, et de culture, quoi.
Bon, allez, on va avancer parce que on a déjà passé trop de temps sur cet article. Alors par contre, oui, quand même, pour finir, alors ça c'est étonnant, la commission appelle quand même à cesser de criminaliser l'usage et la possession de drogue. Alors j'ai trouvé ça chouette quand même, et à trouver d'autres options que l'incarcération pour les acteurs non violents du bas de l'échelle du trafic de drogue, tels les fermiers et les passeurs. Voilà, je trouve que c'est bien ça.
Ah ouais.
Parce que ça, c'est pas l'OICS qui le disait il y a très longtemps, enfin il disait pas ça il y a quelques années. Voilà, bon. Alors, on va reparler un peu de ce rapport de l'OICS tout au long de l'émission, parce que il n'y a pas eu qu'un article, et puis ça n'a pas parlé que de ça.
Voilà, puis il y a des petites brèves détendantes au milieu, avec l'Espagne par exemple, où on voit que le cannabis est plus populaire que le tabac. Et ben, ça veut dire quoi? C'est que ben, dans les statistiques, par rapport au sondage, ils ont vu qu'en 2013, il y avait 169 000 Espagnols qui ont testé le cannabis pour la première fois cette année-là, donc il y a deux ans, hein. Et seulement 142 000 qui ont fumé des cigarettes pour la première fois. Donc a priori, il y a eu plus de fumeurs de cannabis que de fumeurs de tabac en primo expérience. C'est étonnant quand même. Ouais, donc il y a d'autres petites stats qui montreraient que quand même le cannabis est très primé, y compris par les mineurs.
Très prisé. Voilà. Alors, autre chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a une certaine tolérance en Espagne. Et contrairement à ce que on va dire dans l'article suivant en Suisse, en tout cas, cette tolérance, visiblement, elle montre plutôt qu'il y a une légère baisse du nombre de consommateurs quotidiens. Contrairement à ce que dit notre ami Maximilien Bernard de Suisse, là, on constate donc une baisse des consommateurs quotidiens, 1,9%, 1,7% contre 1,9% un an plus tôt. Donc, voilà, comme quoi, un pays où il y a quand même des lois un peu plus tolérantes qu'en France, beaucoup plus, c'est pas forcément, enfin là, on le sait, hein, les jeunes ne sont pas forcément les plus gros consommateurs. Donc c'était dans 20 minutes, dans 20minutes.fr, le cannabis plus populaire que le tabac. Allez, on va continuer, avant de faire une petite pause musicale. On va aller en Suisse, c'est dans 24h.ch. Alors là, c'est Maximilien Bernard, qui est le président de l'association Romande contre la drogue, et qui demande tout simplement aux autorités d'appliquer la loi. Alors d'abord d'appliquer la loi selon la Convention unique sur les stupéfiants de 61. En fait, il parle beaucoup de ça. Donc, Monsieur Bernard, en fait, j'ai voulu mettre cet article pour qu'on se rende compte quand même qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des ayatollahs prohibitionnistes qui disent n'importe quoi. Là, il est fort, lui. Hein.
Il est pas mal. Ouais.
Ah, il est pas mal.
Ouais, il est bien gratiné.
Il est pas mal du tout. Alors donc, il dit comme ça que les Suisses ont refusé une votation en vue de dépénaliser le cannabis, que le Conseil national l'a fait de même au milieu des années 2000, que la Suisse est le pays, par ailleurs, un pays qui a signé la Convention unique sur les stupéfiants de 61 des Nations unies. Pardon. De fait, la Suisse reconnaît donc que la toxicomanie constitue un danger économique et social pour l'humanité et s'engage à prévenir et à combattre ce fléau. Voilà. Malgré cela, il nous dit quand même là qu'il s'entête à vouloir ouvrir des clubs de cannabis. Mais il faut regarder, nous dit-il, le résultat des expériences faites récemment à l'étranger. Force est de constater qu'elles tournent au véritable fiasco sanitaire. Les Pays-Bas, nous dit-il, dans lesquels le cannabis et ses dérivés ont été légalisés, ce qui est faux, hein, connaissent l'un des taux de criminalité les plus élevés d'Europe occidentale.
Ce qui est faux aussi.
Ce qui est faux aussi. Alors après, je ne sais pas dans quel sens il parle d'augmentation de la criminalité. Bon, je sais pas quel est le taux de criminalité général aux Pays-Bas par rapport à la France, la Belgique, l'Angleterre, j'en sais rien. Et je sais pas s'il parle de ça ou si c'est uniquement le taux de criminalité par rapport à la drogue.
Voilà, bah après,
je sais pas.
Il rajoute plein de trucs assez bizarres, des informations plus ou moins vraies. Alors sur Barcelone, qui vient de fermer 49 clubs de cannabis.
Attends, mais tu vas trop loin.
Je sais pas si c'est tout à fait vrai.
Tu vas trop vite.
Ah, pardon.
Tu vas trop vite. Bah attends, l'énormité. Pour pallier les problèmes, donc toujours la Hollande, pour pallier les problèmes que génèrent les coffee shops, notamment la prolifération de vendeurs de drogue dans les rues, les autorités ont décidé d'en réduire le nombre drastiquement. Alors là, on a tout mélangé.
Oui,
tout mélangé.
C'est vrai.
Parce que justement, s'il y a des coffee shops, c'est pour... Si justement il y a des coffee shops, c'est pour justement qu'il y ait moins de vendeurs dans la rue. Mais non, selon lui, si comme il y a des coffee shops, il y a plus de vendeurs dans la rue. C'est complètement illogique, hein, parce que les gens justement ils vont pas dans la rue. Après dans la rue on trouve pas forcément les mêmes produits. Hein. Enfin ça dépend. Les autorités ont décidé d'en réduire le nombre drastiquement. Mais c'est pas pour ça que les autorités hollandaises ont réduit le nombre de coffee shops en Hollande. C'est parce que malheureusement il y a une nouvelle majorité qui a pris le pouvoir et c'est pas depuis peu, depuis une dizaine d'années, les Pays-Bas, comme plein de pays du reste de l'Europe, sont confrontés à une vague de droite, voire d'extrême droite. Mmh. Et qu'en Hollande également, les pouvoirs publics sont devenus beaucoup plus à droite. Et on le cannabis dans le collimateur, comme plein d'autres problèmes de société, de l'ordre moral et tout. Et que du coup, ben, ils ont décidé d'en réduire le nombre. Ouais, voilà, c'est pour ça.
Mais oui, oui. Et les vendeurs de rue sont revenus, d'ailleurs, en particulier à Maastricht.
Eh ben oui.
Où exactement. La vente a été interdite aux étrangers.
Exactement. Donc bon, ce monsieur, visiblement, il n'y connaît rien au sujet et surtout il est de mauvaise foi.
Sur un autre truc, moi, que j'avais remarqué où il disait n'importe quoi.
Ah oui, vas-y.
C'était sur le Colorado où 6 mois après ça, la légalisation de la marijuana là-bas. Le cannabis et des ravages au Colorado. Alors, nous, tous les échos qu'on a eu jusqu'à maintenant étaient plutôt favorables. Moins d'accidents de la route, moins de criminalité. À part des attaques, bah, justement, contre les clubs, puisqu'ils étaient obligés d'avoir tout en liquide. Donc, ils ont des systèmes super sécurisés pour transporter leur fric. Voilà. Mais à part ce détail-là, tout était plutôt en baisse, aussi bien sur la criminalité, que sur les accidents de la route.
Alors, un argument qu'on entend souvent.
Et la deuxième chose qu'il disait, en deuxième bêtise, c'est en semi-bêtise, la police et les hôpitaux doivent composer avec de nombreux empoisonnements, y compris chez les enfants, malgré le fait que la vente aux mineurs soit interdite avec des hausses de délits à la clé, etc. Donc bon, c'est pas totalement faux, mais c'est vraiment tiré par les choses. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y avait des gâteaux qui étaient en vente, qui étaient vraiment qui étaient très chargés, qui avaient la tête de sucreries. Et il y a eu 2-3 cas où des enfants en ont pris et ont été un peu malades, et 2-3 cas où des touristes en ont pris 3 ou 4, et là aussi ils ont eu des allumes un peu fortes et ils ont fini aux urgences pendant quelques heures. Mais bon, ça reste des épiphénomènes, et depuis, l'État du Colorado a pris une mesure et a réduit la dose maximum autorisée dans un gâteau.
Oui.
Pour limiter les risques.
Voilà. Mais bon, l'histoire
C'était juste pour dire que c'était un peu vrai, mais ce qu'il en tirait comme conclusion était totalement absurde.
Oui, et puis bon, un argument qui revient régulièrement quand il y a des changements, même petits, de législation sur les drogues ou le cannabis, c'est que les hôpitaux sont envahis de gens qui tripent mal, en fait, et qui prennent du cannabis. Ça, on l'entend régulièrement. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit que, bon, bah, de toute façon, rien ne va bouger. L'Office fédéral de la santé publique a rappelé qu'une loi punit toute consommation de cannabis, sauf si elle se justifie pour raison médicale. Alors après, j'aime bien ce qu'il dit quand même. En clair, seule une modification de la base légale actuelle permettrait d'ouvrir de tels clubs. Bah oui, monsieur, mais c'est bien ce que les militants essayent de faire en Suisse. Ils sont pas complètement zinzins et ils font pression un peu de tous côtés. Et il nous dit pour finir, l'époque du chanvre récréatif est révolue.
Les produits consommés à notre époque sont hautement toxiques. Ça te plaît, hein, comme phrase.
Ah ouais, ouais.
Ça hérisse les poils, là, je le vois.
Ils sont un véritable fléau pour la santé publique. Nos autorités doivent se donner les moyens de restreindre une fois pour tout l'accès aux produits stupéfiants. Le dispositif législatif permet de le faire, en particulier par le biais de la prévention de la répression. Il suffit d'appliquer la loi, blablabla. Ouais.
C'est vrai, quand on voit des conneries comme ça, je suis de ton côté. C'est absurde de dire que les produits sont plus toxiques aujourd'hui qu'hier. C'est rien. Ils sont un tout petit peu plus concentrés à la limite. C'est comme ils sont de meilleure qualité. Si on améliorait d'année en année les vins, ouais. les gens ils autoproduisent de plus en plus.
Je suis pas sûr qu'un vin à 9 degrés et demi ce soit un bon vin. Peut-être qu'à 12 degrés, c'est meilleur.
11, 12, 15, 16.
Voilà, ouais.
Voilà. Après, il y a les 28 à 17, et après, il y a d'autres choses. Et puis, voilà, bon. Il y a toutes les teneurs. Et puis, il y en a jusqu'à 50 degrés.
Des vins?
Non, des alcools.
Ah, bon, je connais rien en vin.
Mais en tout cas, si c'est légal, ça peut être contrôlé. Du coup,
oui,
le problème,
sûr.
Il peut être restreint, quoi.
Ouais.
Tout à fait, tout à fait.
si tu veux. C'est ce qu'il faut. C'est aussi les dangers avec toutes les herbes, les huiles, les hachiches qui peuvent aussi être assez concentrées.
Bon, un peu de musique, yes, parce qu'on a beaucoup parlé. À tout de suite. Après.
Servez-vous donc un petit café, arrivez, messieurs, dames. Demandez-vous ce que vous avez fait, car dites-moi, messieurs, dames, nous vont pourra se rencontrer, car dites-moi, messieurs, dames, ce sera plus le temps de se défiler.
C'est bon, hein. Donc, on vient de s'écouter quasiment une idée dit. Merkins, messieurs, dames.
Bien. Allez, oulala, le temps passe vite. Allez, on va aller, après la Suisse, on va aller en Angleterre, où actuellement, très bientôt en Angleterre, il va y avoir des élections. Et le cannabis s'invite dans la campagne électorale. Alors j'ai pas pu mettre l'article dans la revue de presse parce que le lien visiblement était mauvais ou j'ai pas pu retrouver l'article, mais il y avait un article qui parlait de ça, de quelqu'un qui est en lice contre Cameron et qui visiblement entend faire changer la loi sur le cannabis en Angleterre. Je me rappelle pas son nom. Toi tu vois pas, non? Bon, on en reparlera je pense plus tard ou la semaine prochaine, il y aura sûrement un article auquel on pourra accéder. Des fois, bon, c'est un peu compliqué, même par internet. Bon, des fois les serveurs sont en panne, on peut pas avoir l'article quand on fait l'émission. Bref, c'est pas grave. En tout cas, récemment, un présentateur du journal télévisé de Channel 4, donc pour la BBC, hein, n'a pas hésité à payer de sa personne pour parler de la drogue et donc en la testant en fait, hein, directement à l'antenne, en direct. Alors là, c'est un article qui nous vient du magazine TV du Figaro. Au départ, c'est un article de Télérama qui est certainement mieux écrit et mieux informé, parce que là encore, il y a des conneries énormes dans cet article. Je savais pas qu'il y avait de la chunk. Alors, je connais la skunk, mais la chunk, je ne connaissais pas. En tout cas, ce monsieur, où est-ce qu'il est son nom? Bref, peu importe, il a essayé donc deux drogues. Alors, c'est dans l'émission intitulée Drugs Live, Cannabis on Trial, Drugs en direct, le cannabis à l'essai. Donc c'était diffusé mardi dernier. Jon Snow donc, et ainsi qu'une ancienne journaliste de la BBC se sont donc prêtés à cette étrange expérience pour comparer deux variétés de cannabis. Donc je cite la chunk, très prisée par les jeunes en Angleterre,
et le hashish,
là c'est écrit correctement. Voilà. Donc après avoir inhalé de la chunk sous forme gazeuse dans un ballon, le présentateur, donc Jon Snow, a aussitôt passé une IRM cérébrale pour qu'on voit en direct les effets du cannabis dans le cerveau. Voilà. Mais apparemment, d'après ce qu'on lit dans l'article, les effets ont alors été tels que monsieur, le journaliste, a été obligé de mettre fin au scanner.
Il a fait une petite crise de paranoïa dans son scanner.
Voilà, il dit comme ça, après avoir pris de la chunk, j'ai été envahi par la pire peur de ma vie, je ne le referai jamais. Voilà. Bon, c'est sûr que s'il a fumé de la chunk, il a peur, ouais, c'est sûr. On sait pas ce que c'est de la chunk, en fait, hein. Ça se trouve, c'est encore une herbe encore plus dosée que les saisies faites par l'OICS aux États-Unis.
On sait pas, en tout cas, si le débat est intéressant ou pas, si les arguments avancés sont hautement intéressants, mais a priori, quand même, il y a du débat, parce qu'on verrait même pas ça en France.
Alors, c'est
on
possible.
On n'imagine pas un Pujadas en train de faire ça.
Oui, enfin, pas lui, en tout cas. Mais un Ardisson, si.
Ardisson, pourquoi pas.
Un De Chavannes, si. Si.
Bah, il y en a plein. Vous avez déjà vu, même.
Oui, non, mais bon, enfin, à la télé, Pujadas, j'en sais rien, mais des qui fument du cannabis.
Non, mais
qui
des
sont...
Ardisson ou des De Chavannes.
Ah bon, toi tu les as peut-être vus, moi je les ai pas vus, mais bon bref, après voilà, dans le PAF français, il y en a un paquet qui sont adeptes d'un certain nombre de produits. Hein. Voilà, ça c'est pas une légende. Voilà. Alors après, est-ce que ça serait possible en France? Ben oui. Alors il y a déjà eu une émission. Alors en Angleterre là, ça fait quand même de l'audience, 1 400 000 téléspectateurs. En France, on a essayé un truc un peu pareil, mais au niveau de l'alcool, ça avait attiré que 200 000 personnes. Bon. Alors donc, est-ce que c'est possible de faire une émission en France comme ça? Ben en théorie, oui. Le 17 juin 2008, le CSA avait répondu à cette question. Et il avait dit que, s'agissant des émissions d'information des documentaires sur les drogues illicites ou des personnes les consommant, elles peuvent y apparaître dès lors que cela entre dans l'objet de l'émission ou du documentaire et que ces programmes ne sont en rien incitatifs, c'est-à-dire que la consommation à la personne consommant de la drogue ne sont en aucun cas valorisées. Ça veut dire que si vous faites une émission comme elle a été faite en Angleterre, en France, et que vous faites venir un journaliste, genre le même Jon Snow ou un autre, et qui se comporte de la même manière que ce journaliste, ça passe. Voilà, là c'est bon en fait. En Angleterre, le gars, il se sent pas bien, il fait un IRM, il dit « je referai jamais ça ». Ça c'est légal. Imaginons qu'ils aient pris un autre journaliste et qu'ils disent « ah ouais, trop cool ». Et ben là, ça passe pas.
Bah oui, le but c'était ça, et justement.
Oui. C'est toujours de dire que
le cannabis c'est mal.
C'est mal. Alors là, pour l'alcool, en France, je pense qu'ils n'avaient pas dit que l'alcool c'était bien. Hein.
On rappelle que d'après l'article L3421-4, il est interdit de dire le cannabis c'est bon à l'antenne.
Oui, mais a priori, on n'a pas le droit de dire que c'est mal. Est-ce que c'est bon de prendre de l'alcool aussi? On n'a pas le droit de faire ça. Sauf que...
Ah si tu dis que deux verres de vin sont bons au cours des repas, et si tu ne dépasses pas les deux verres par jour,
d'accord,
t'as le droit de
le dire. Ah ouais,
jamais on se permettrait de dire qu'un joint ou
oui,
deux,
tu as raison.
Légèrement le soir pourrait être bon. Si on dit ça, on serait assassiné par la justice, et donc on ne se permettra jamais de le dire.
Ah ouais, c'est interdit.
Ouais. Même en parlant de modération, comme tu dis. Bien. Donc voilà pour l'Angleterre. En France, c'est pas près d'arriver. Ils l'ont fait pour l'alcool. Bon, ça a fait un bide, visiblement.
Et en plus, je sais pas si tu as lu par rapport à l'alcool, on voyait pas les jeunes en train de boire de l'alcool, mais seulement l'évolution de leur comportement.
Oui, d'accord, oui.
Et puis il y a quand même des associations qui ont très critiquées par les associations de prévention.
C'est vrai. Oui, oui, oui.
Cette émission. C'était pareil pour montrer l'évolution en fait de l'alcool dans le corps de ces jeunes, quoi. Pour démontrer que c'est pas bien, quoi.
Tout à fait, parce que voilà, c'est ce que souvent les prohibitionnistes nous ressassent, c'est que le cannabis c'est pas bon pour le cerveau et en particulier pour le cerveau des mineurs. Point sur lequel ils ont tout à fait raison, mais il faut rappeler que l'alcool a des effets tout aussi mauvais et tout aussi nocifs sur le cerveau de ces mêmes mineurs, surtout que ces mineurs boivent autant qu'ils fument, et les deux ensemble sont encore d'autant plus mauvais. Donc ça, c'est vrai qu'il faut le dire et le redire, parce que c'est quand même important, et il faut essayer de faire baisser l'âge des consommations et des consommations excessives chez les mineurs. Là, il y a quand même un travail qui a...
Ouais, ouais, puis au-delà de ces produits, quoi.
Les mineurs, j'ai 10 ans, des premières cigarettes à 12 ans, les premiers joints à 13 ans, quoi. C'est
vrai pour les ordis, c'est vrai pour le portable, c'est vrai pour plein de choses, hein, par rapport à un jeune, quoi. Même par rapport aux adultes. Mais bon, voilà. Nous, on est d'accord avec toi quand tu dis qu'évidemment, le cannabis, notamment chez les plus jeunes, ça peut poser des problèmes dans l'évolution du cerveau. Mais voilà, c'est vrai aussi que les mecs qui passent 10 heures, 12 heures, 15 heures sur des jeux, sur Internet, portable, voilà, c'est les mêmes dangers, quoi.
C'est physique, tout à fait. Manière, il faut se dépenser, il faut faire du sport, il faut marcher. On n'est pas des êtres qui ont été construits pour être assis, hein, ni devant une tablette, quoi.
Ouais, on va pas c'est faire bien, comme la pub, bouger plus, hein, bon. Jusque quoi.
Allez.
On enchaîne.
Vol, vas-y, vol.
Vol ?
Ouais, on vole. Bon. Emmène-nous, où c'est que tu nous emmènes ?
Bon, ben, donc, on va voir l'OMS maintenant.
C'est à l'OMS, du coup. Parce que
c'est un article aussi, de West France.
Ouais.
Où on lit aussi des conneries, d'ailleurs, ça m'a fait marrer.
Eux ils disent, des conneries ou pas, ils disent qu'il y en a qui disent que le cannabis cause le cancer du poumon et des psychoses, et que donc, au contraire, à contrario, pensent que le cannabis a plein de vertus thérapeutiques, et ils en citent quelques-uns, des douleurs, des crises d'épilepsie, etc.
Les conneries, elles sont dans le renvoi du 1 à la fin, mais on verra plus tard. Donc, voilà. Après, ce qu'ils disent aussi, c'est que les preuves scientifiques concernant les bienfaits médicaux du cannabis, il y en a quand même de plus en plus et de plus en plus convaincantes. Et que, d'après les experts, les résultats des nombreuses études pertinentes et le recul des interdictions légales devraient quand même forcer les responsables de la santé publique à statuer rapidement au sujet de l'usage du cannabis. Voilà. Et donc, l'OMS fait partie de ces experts, on va dire. Donc l'OMS devra probablement adopter bientôt une nouvelle position sur le cannabis, vu la pression qu'elle subit. Voilà ce que dit Pavel Pachta, qui est l'ancien secrétaire adjoint de l'organe international de contrôle des stupéfiants, donc l'OICS, dont on vient de parler en début d'émission. Ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, il y a une réunion, il y a une conférence internationale sur l'utilisation médicale du cannabis et des cannabinoïdes qui se tient à Prague depuis mercredi dernier. Ça, c'est très bien aussi. Il y a une conférence là-dessus. Voilà. Alors, aujourd'hui, bon, ce qui se dit, il y a le point de vue de Michel Kazatchkine, qui est l'envoyé spécial de l'ONU pour le sida en Europe orientale et en Asie centrale. Et il dit que quand même, dans de nombreux pays à travers le monde, les gouvernements, les politiques, les responsables politiques, les chercheurs et les citoyens se demandent aujourd'hui quand même si la manière actuelle de gérer les drogues est bien la plus appropriée qui soit, en parlant de la prohibition.
Tout à fait. Un expert qui ajoute derrière, le système international actuel de contrôle des drogues a échoué. Et le journaliste a un peu traduit ses paroles en disant la prohibition doit laisser la place à la régulation légale. Régulation légale pour dire que c'est l'expert qui parle. Donc voilà, ils essayent de sortir de ce système prohibitionniste. Donc il y a quand même des trucs qui semblent être intéressants. Et l'article rappelle que les majors pharmaceutiques sont dans les starting blocks pour essayer de développer plein de médicaments, y compris des médicaments juste récréatifs.
Voilà, alors bon, comme tu disais en intro, à propos de cet article, il y en a qui disent que fumer du cannabis, enfin qui accusent en tout cas le cannabis de causer le cancer du poumon ou des psychoses, alors qu'il y en a d'autres qui disent qu'il y a plein d'utilisations médicales possibles contre la douleur, les crises épileptiques. Il y a Steph Cherer, qui est le fondateur de l'organisation Americans for Safe Access, qui dit que c'est quand même formidable qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui utilisent le cannabis légalement aujourd'hui. Plus tard, on nous parle aussi un peu plus loin des grands groupes pharmaceutiques qui ont renoncé à faire de la promotion de produits liés au cannabis à cause de problèmes d'image. Mais les choses changent, nous dit Raphaël Meshulam. Et il dit, voilà, j'entends quand même que quelques majors pharmaceutiques développent de tels produits, mais aucun d'entre eux n'est encore arrivé à l'étape de son introduction en tant que médicament. Alors Meshulam, hein, c'est quand même celui qui a le premier révélé les potentialités, enfin qui a déjà identifié le THC et qui a révélé les potentialités au niveau thérapeutique des différents cannabinoïdes dans les années 50-60, hein, c'est quand même très vieux maintenant, c'est pas nouveau. Une étape donc de plus qui soulève elle aussi l'obligation pour l'OMS de se prononcer sur la légalisation, l'utilisation du cannabis dit thérapeutique. Voilà, et donc la connerie, eh ben, elle est là, c'était en renvoi en petit 1 à propos des études pertinentes et le recul des interdictions légales. Et on peut lire qu'en Europe, le cannabis a été légalisé par la République tchèque, mais aussi la Finlande et les Pays-Bas, voire le Portugal et l'Espagne. Voilà. Bah non, monsieur West France, non. Encore une bêtise.
C'est pas tout à fait ça.
C'est pas tout à fait ça.
Alors, c'est légalisé dans le sens le plus large du monde, qui veut dire que juste des...
Pénaliser vos légalisations.
Ça veut rien dire à ce moment-là. Pas tout à fait le cas.
Mais
on n'a jamais pu arriver à faire de telles extensions.
Voilà. Donc, aux États-Unis, 23 États ont autorisé l'utilisation de la marijuana à des fins médicales. 4 d'entre eux et la capitale Washington l'ont légalisé. L'Uruguay est devenu en 2013 le premier État à légaliser le cannabis complètement. Donc ça, c'est
voilà,
vrai.
Voilà. D'ailleurs, on a un autre article derrière qui nous en parle. Pour la loi pour la marijuana avance, c'est un
en Uruguay. Drugs. C'est sur le site talkingdrugs.org, un très bon site.
Voilà, on rappelle qu'en Uruguay, la loi sur la marijuana avance à pas de géant et que les ventes donc sont attendues pour juin, vu que là-bas ils sont dans l'hémisphère sud. Eh ben la période de récolte va arriver, vu que donc ça a été légalisé en 2013, mais avec les décrets d'application, c'est arrivé qu'en mai 2014. Vu que c'était un des trucs très compliqués, il a fallu que ça se mette en place pour pouvoir enregistrer les autoplantations. Il a fallu que ça se mette en place pour organiser les ventes des clubs, etc. Et donc, aujourd'hui, donc, on va voir un petit peu les résultats, puisque ils sont pas allés à toute vitesse comme au Colorado. Ils ont essayé de prendre leur temps, de caler les choses pour qu'il n'y ait pas de trust, justement, qu'il n'y ait pas de vente,
ouais, de business, pas de business capitalistique.
C'est juste pour couper de l'herbe au pied de la mafia, hein, ce que disait José le Pépé, là. L'ancien président.
Peu de respect, enfin, voyons.
Comment ?
José Mourica.
José Mourica, yes. Voilà, je ne sais pas ce que est-ce que j'ai tout dit sur ce pays. Oui, si, dans les derniers les clubs, il y aurait quand même... Donc, fin janvier 2015, environ 1300 producteurs de cannabis et presque 500 clubs enregistrés dans la base de données. Donc, voilà, ça avance petit à petit. On saura, donc, dans quelques mois, le nombre de consommateurs dès qu'il y aura des productions.
Voilà. Puis bon, alors, du coup, ça tord un peu le coup à ce qu'on avait un peu dit la semaine dernière, même si on n'avait pas l'article dans la revue de presse, où le nouveau président... finalement peut-être aller revenir dessus, et ben finalement là dans cet article c'est parti quand même, hein, pour se faire réellement et concrètement. Voilà. Ensuite on va retourner, il nous reste 2 minutes, sinon on va retourner aux États-Unis.
Je propose on fait une petite pause et je pense qu'on débordera un petit peu.
Bon, si tu veux. On espère que vous avez bien dansé autour du feu.
Vous êtes bien défoulé, que vous étiez à fond.
On n'a pas mis, en entier. Oui, c'est un peu court. Désolé.
Ouais, on a coupé le Highlight Tribe.
Highlight Tribe.
L'Indian Trance.
Indian Trance. Voilà. Donc, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, voire même on a déjà épuisé notre temps. Donc, avant de nous quitter, un petit truc rigolo. Voilà, ça se passe au Texas.
Dans le point de 4 mars.
Ouais. Eh ben, au Texas, il y a un élu républicain qui veut légaliser le cannabis au nom de Dieu. Ni plus ni moins.
Eh ouais, ouais. Tout ce que Dieu fait est bon, y compris le cannabis. S'est-il justifié, donc, dans un communiqué de presse faisant ensuite un dépôt
de projet de loi.
Projet de loi, ouais.
Voilà. Et donc, le cannabis, selon ce monsieur, David Simpson, il s'appelle, le cannabis est arrangé dans la même catégorie que les tomates, les piments verts ou le café. Voilà.
Ben, non, n'empêche que même si c'est un homme de Dieu, il peut être intelligent. Du coup, je l'applaudis parce qu'il rajoute aussi mettre des gens en prison où ils apprennent à devenir des criminels, à les séparer de leurs proches pour avoir possédé une plante que Dieu a faite, ce n'est pas bien.
Voilà.
Voilà, donc je trouve que c'est une bonne chose. J'aimerais bien que... De par le monde, tous les religieuses disent la même chose.
Bon, alors après au Texas, ça a
pas
provoqué un tollé.
Ça
a provoqué un tollé au Texas, et notamment dans les propres rangs de son parti. Et donc le chef de file des Républicains du Texas, Monsieur Steve Munisteri, lui a rappelé que son parti était majoritairement opposé à la légalisation du cannabis, et de même que le porte-parole de l'association des shérifs du Texas. Oui, on devrait leur envoyer les Indiens, ouais, t'as raison, ouais. Qui a suivi la même ligne en faisant valoir que la drogue est la cause de nombreux accidents de la circulation. Mais ça n'a pas convaincu Monsieur David Simpson, qui a dit « Je ne connais pas beaucoup de gens, je ne connais personne qui a eu un accident pour avoir consommé du cannabis. En revanche, je connais beaucoup de gens qui se sont endormis après avoir trop mangé. À quand une loi pour criminaliser la consommation du cheeseburger ?» Ah, ça, c'est pas Monsieur Simpson qui le dit, c'est le journaliste du Point, bref. Voilà, peut-être la semaine prochaine, on reparlera un peu de la légalisation du cannabis aux États-Unis qui change la donne pour les narcos du Mexique. On n'a pas le temps ce soir. Et avant de nous quitter, une petite question pour gagner une place à Technigro. Une nouvelle question, puisqu'on a déjà eu un auditeur qui a remporté la première place. Écoutez bien, quel est l'État, quel pays plutôt, pas État. Quel pays?
Premier pays à avoir légalisé au meilleur sens du terme, c'est-à-dire avoir fait une loi, changer sa constitution et changer sa loi, et avoir dit maintenant le cannabis sous telle forme, selon telle règle, eh ben, est légal.
Voilà, donc quel est ce premier pays qui a légalisé? Et on vous invite à répondre à cette question par mail à l'adresse du Cirque Lyon, cirque-lyon@no-log.org, cirque-lyon.no-log.org. Sinon, visitez le site du Cirque Lyon, www.cirque-lyon.fr. Si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse mail du cirque, vous la trouverez sur notre site internet.
Voilà, tout ça donc pour gagner une place.
Pour Technigro, voilà. Technibrou, les 28 et 29 mars prochains.
Voilà.
Au double mixte à Villeurbanne.
Eh ben voilà. Bonne soirée à tous.
Et à toutes.
Bonne semaine. Bonne
soirée. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci de votre fidélité. C'était Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. Allez, à la semaine prochaine.
Bye bye.